Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Avec Thierry Moreau, salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Benjamin Muller est avec nous.
Bonjour Estelle, ça va, Benjamin ? Je suis stressé.
Vous êtes stressé pour les bleus ?
Bah oui,
pour les bleus. Ça va le faire.
Hein. Oui, vous pensez ?
Bah,
ok, ça va mieux.
Comme il y a 4 ans.
Du coup, ça va mieux, parfait.
On avait gagné 2-1. Hein. C'était un sale match, hein, Frédéric Hermel, on va pas se mentir.
Non, ça.
On se disait, on va pas aller loin, puis on est allé au bout.
Bah, oui, comme quoi. Comme ça.
Hein. Bonjour Estelle.
Bonjour Fred.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Et justement, on va parler foot aujourd'hui dans Estelle Midi avec l'entrée en lice des Bleus dans la Coupe du Monde face à l'Australie. Les Bleus champions du monde, qui prend les paris? On sera en direct de Doha avec notre correspondant Martin Bourdin. Et puis avec vous, bien sûr, au 32-16. Dites-nous, tiens, si vous croyez en cette équipe de France. À midi et demi, on parlera de la Cour d'appel de Paris qui vient tout juste d'interdire à Jean-Luc Ley de se produire en concert. Il est mis en examen pour viol sur mineur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette décision? À 13h, la baisse de 25% de la durée d'indemnisation chômage parce que la France est sur la voie du pôle emploi. Est-ce que, du plein emploi, pardon. Est-ce que vous jugez
révélateur.
C'est magnifique. Est-ce que vous jugez ça scandaleux ou nécessaire? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Paul Lassen. On parlera de solutions anti-gaspi pour faire des économies. Et puis à 14h, les écrans sont-ils un danger pour notre vie sexuelle? Un homme sur trois connaît des problèmes d'érection liés aux écrans. Faut-il les bannir de notre chambre à coucher?
RMC Estelle Midi.
17 sur RMC et on va tout de suite démarrer avec l'entrée en lice du jour. C'est celle des Bleus dans la Coupe du Monde au Qatar. 4 ans et demi après leur sacre en Russie, les Français affrontent l'Australie comme lors du premier match en 2018. Et on va retrouver tout de suite Martin Bourdin à Doha. Bonjour Martin.
Salut à tous.
Martin, est-ce que les supporters français sont nombreux à s'être rendus au Qatar?
Alors, nombreux pour tout vous dire, depuis que je suis arrivé il y a une semaine maintenant, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de maillots de l'équipe de France dans les rues de Doha depuis quelques jours. C'est un petit peu mieux aujourd'hui, j'ai réussi à en trouver un groupe de dizaines de supporters français. Ils ont tous un maillot bleu autour notamment de Fred et de Stéphane. On se sent un peu seul là dans les rues de Doha depuis quelques jours ou aujourd'hui ça va un peu mieux quand même?
Non, on se sent pas seul. Bien sûr, on est là, on va représenter la France et on va tout donner. Hein. Vive l'équipe de France et allez!
On a envie de faire la fête, hein. On a tous envie de faire la fête. On attend que ça finalement d'être dans le stade.
Ouais, c'est sûr qu'on est impatient. On est arrivé depuis 2 jours, donc on attend ce match avec impatience. On a eu la chance de croiser quelques nombreux supporters d'autres pays. C'est vrai que concernant les Français, on les cherche un peu. J'espère qu'on sera tous ce soir dans le stade. Je sais pas combien on sera, mais au moins 10 000, j'espère, au niveau des Français pour pouvoir supporter l'équipe de France.
Alors 10 000, je sais pas si on sera 10 000. En tout cas,
s'ils sont que 10, ça va pas faire nombre quand même.
Ça paraît un peu compliqué, ouais, effectivement, d'être 10 000. En tout cas, on attend peut-être 4 000, autour de 4 000 supporters français dans le stade. Tout à l'heure pour supporter l'équipe de France. La question aussi qu'on se pose tous, c'est est-ce que vous y croyez finalement à cette équipe de France? Beaucoup de blessés, Benzema, beaucoup de gens qui sont pas là, beaucoup de joueurs qui sont pas là. On y croit quand même ou pas?
Oui, on y croit. Hein. Bien sûr qu'on y croit, enfin, il faut tous derrière eux. On va aller jusqu'au bout.
Ouais, après, Giroud va nous planter un beau but ce soir.
Un petit doublé de Mbappé en plus et c'est terminé.
Oh. Et c'est un Marseillais qui dit un doublé de Mbappé. Donc voilà, on y croit, on est confiant. Juste Estelle, un petit mot sur. J'ai pu parler aussi à des supporters étrangers, notamment des supporters australiens après la blessure de Benzema. Savoir un peu dans quel état d'esprit ils étaient, s'ils avaient un petit peu peur ou non toujours de l'équipe de France. Globalement, ils sont pas très sereins, les Australiens.
Oui, bon, on les comprend.
Malgré tout, vous avez quand même une grosse équipe. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les supporters ici ont plutôt envie de. Enfin, sont plutôt sur la ligne de voir la France gagner ce soir, ici au stade d'Al Janoub, ici à Doha.
Merci beaucoup, Martin Bourdin, notre correspondant RMC pour Estelle Midi. Rémi Barré, est-ce que les Français y croient justement à ce nouveau titre de champion du monde?
Oui, c'est ce que nous dit un sondage Odoxa. La question, selon vous, qui gagnera ce mondial? L'équipe de France est donnée vainqueur par 37% des sondés, loin devant le Brésil qui est à 13%, l'Allemagne à 10% et l'Argentine. C'est ceux qui se présentent comme amateurs de foot. La cote des Bleus, elle est encore plus forte. Je parle bien de personnes interrogées en France. Il s'agit de Français. 44% donc des amateurs de foot français les placent les Bleus au rang de favoris, toujours devant les Brésiliens à 20%, les Allemands à 10% et les Argentins à 6%. Les Bleus, grands favoris, donc on l'a compris, pour les Français dans ce sondage. C'est une toute autre histoire quand le sondage est réalisé à l'étranger. Ainsi, d'après une étude réalisée par l'Institut Ipsos Global Advisor dans 34 pays, là c'est le Brésil qui est donné gagnant. Par 21% des personnes interrogées, suivent l'Allemagne, 13%, l'Argentine à 10%, et la France est à égalité avec l'Argentine à 10%. Reste que dans l'histoire de la Coupe du Monde, une nation qui conserve son titre de champion du monde, ce n'est arrivé que deux fois,
oui.
L'Italie en 1934 et 1938, et le Brésil en 1958 et 1962.
Voilà, et pour les bookmakers, le favori, c'est le Brésil devant l'Argentine, et la France arrive en troisième position. Les Bleus, champions du monde, qui prend les paris? Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même eu les forfaits de Pogba, Kanté, Benzema, Kimpembe, Nkunku. Et juste, à chaque fois qu'il y aura un but dans cette Coupe du Monde, on vous le fera vivre dans Estelle Midi. Et là, c'est tout de suite, justement... Allez-y, Valentin Jamin.
Grosse surprise puisque l'Arabie Saoudite vient d'égaliser face à l'Argentine après 48 minutes de jeu. Le but de Saleh Al-Sherry sur une des toutes premières situations dans la surface côté gauche. Il croise sa frappe et trompe le gardien argentin Martinez. Ça fait donc un partout entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Après 48 minutes de jeu, c'est Lionel Messi évidemment qui avait ouvert le score en première période.
Le match Argentine-Arabie Saoudite est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
On retrouve à Valentin Jamin pour le deuxième but de Messi, ouais. Je pense, dans quelques minutes. Vous y croyez ou pas, Benjamin Muller?
Je suis complètement bipolaire. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, il est tout à fait possible qu'au bout de trois matchs, on ait mis zéro but, que ce soit une cata, qu'il y ait encore quatre blessés. Ou à l'inverse, en fait, je vois soit ça, soit la cata de 2002, vraiment le truc horrible, soit à l'inverse où ça va, il va se passer quelque chose dans cette équipe. Et j'ai plutôt, comme je suis un optimiste et comme les sondages des Français de Rémi, plutôt tendance à y croire. Et à me dire que je sais pas, il va se passer quelque chose. Estelle, je vous sens sceptique et je sens que je vais avoir du mal à vous.
Non, mais enfin, quand on voit, voilà, que l'Argentine, il y a un partout contre l'Arabie Saoudite, effectivement, on se dit.
Oui,
que...
et d'ailleurs, l'Argentine qui est, selon les bookmakers et selon eux, qui serait au-dessus de nous, etc., tout est possible, bien sûr. Moi, j'ai lu hier l'interview d'Aurélien Tchouaméni dans Le Parisien. Et je dois dire que bon, je connais pas aussi bien que Fred sa carrière et ce jeune homme, etc. Le gars, il a la tête sur les épaules. Il a 22 ans.
Oui.
C'est un petit, dans l'interview du Parisien, je l'ai jamais vu en vrai, j'ai jamais vu le café avec lui. Il est assez philosophe. Je me dis, à 22 ans, le type, on sent qu'il, voilà. Et je me dis, si on peut se référer sur ces jeunes qui vont devoir remplacer les Kanté, les Pogba, je parle pas de Benzema. Et que par ailleurs, derrière, on a ce bon vieux Giroud. Moi, je vois bien, en fait, l'histoire de Giroud qui va se terminer sur ce mondial où le mec, il va nous mettre 5-6 buts et on va être champion du monde grâce à lui.
Rappelez-moi combien il en avait marqué en 2018.
Zéro, mais Guivarch, il en a mis combien? Et Guivarch, il en a mis combien en 98?
Zéro.
Donc vous voyez, c'est pas non plus, il faut pas non plus qu'on ait un œuf.
Il y avait Zidane.
Mais là on a Mbappé, donc vous voyez, on peut. Si on s'amuse à comparer, c'est toujours possible.
Ça nous ferait du bien quand même, Thierry Moreau, une victoire des Français en Coupe du Monde dans cette période de marasme. On sait qu'à chaque fois que la France gagne la Coupe du Monde, tout va bien. Enfin, au moins pendant 2-3 mois, quoi. Après, on reprend notre grise mine, mais.
Absolument. Il y a eu un documentaire il n'y a pas très longtemps signé Mohamed Bouafsi qui raconte justement ça, que le moral des Français augmente quand, effectivement, il y a des.
Bah, c'est pareil pour les autres pays, je vous rassure.
Il y a des beaux parcours. Après, j'ai le sentiment, mais je parle à des spécialistes, moi je ne suis pas du tout spécialiste de sport, j'ai le sentiment qu'on a toujours du mal à rentrer dans ces compétitions et qu'on ne fait jamais des entrées flamboyantes. Et que...
Si, 98, 3-0 contre l'Afrique du
D'accord,
Sud.
D'accord, ok. Donc,
et 4-0 le deuxième match.
D'accord. Parce que mais la dernière fois, j'ai eu le sentiment qu'on y rentrait un petit peu péniblement. Surtout, c'est bon pour le, ça serait bon pour le moral des Français en ce moment, quoi, très clairement. Et puis, ça va faire des bonnes audiences. Je pense que dès ce soir, vous verrez qu'il y aura de très bonnes audiences sur le match à la télé.
Vous dites combien? Un petit 10 millions?
Ah oh non, pas 10 millions.
8
Non, pas 10 millions. Je pense
c'est
que
à
ça
20
fera...
heures, hein. C'est à 20h et pas 20h45.
C'est ça. Je pense que ça sera entre 7
moi,
et 8.
Moi, je dirais 8 et demi.
Même plus, parce que les enfants peuvent regarder, vu justement c'est tôt. On peut imaginer que ça va être familial.
Il faut savoir que le moment où il y a le plus de monde devant la télévision, c'est 21h17. Donc, c'est...
Oui, mais parce que c'est les primes qui démarrent. Mais là, on va manger devant la télé. Vous voyez, le fameux plateau repas qu'on va pouvoir se faire parce que c'est 20h.
Oui, ce chiffre de 21h17, c'est pas la conséquence du fait que les primes démarrent tard, c'est justement parce que il y a le plus de monde de la télévision à 21h17 que maintenant les primes s'adaptent. Donc en fait, c'est vraiment leur pivot à laquelle il y a le plus de monde devant la télévision. Ouais, un petit 8 millions, je dirais. Ouais.
Dimanche, pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'était 5. Dimanche, mais c'était quand même pas mal. C'était un...
Dimanche après-midi, beaucoup de gens chez eux, très bon score par rapport au premier match qui avait eu lieu un jeudi après-midi.
Fred Hermel, est-ce que vous sentez quand même un engouement autour des Bleus? Parce que moi, je trouve ça très plat. Alors souvent, on se dit, bah, il faut attendre que la compétition commence. Mais enfin là, Martin Bourdin, il est à Doha, il a vu péniblement 10 supporters français. Enfin, on a l'impression que ça a pas pris, quoi. Peut-être parce que c'est parce qu'on est en novembre, parce que c'est au Qatar, mais
ouais. Puis alors déjà,
on sent pas un engouement énorme.
Non, alors, dans la vie. En France, on sent pas cet engouement.
Du tout.
Mais du tout. Enfin, c'est-à-dire que voilà, parce qu'il y a quand même un sondage qui me paraît très important.
Parce que c'est en novembre.
C'est 25% des supporters du foot français qui ont décidé de ne pas regarder l'équipe de France.
Oui, ça c'est ce qu'ils disent.
C'est ce qu'ils disent. Mais en tout cas, enfin, on peut leur faire confiance pour l'instant.
Non, je leur fais pas confiance. Ah bah, je leur fais pas confiance du tout.
Voilà, bon, mais on verra.
Ce soir, ils vont allumer leur télé et le boycott.
Mais moi, tous mes copains ont déjà craqué. Ils ont déjà tous craqué.
C'est facile de boycotter après novembre.
Alors, qui est du monde devant la télé parce qu'il fait froid, on sort pas, etc. Ça, je peux comprendre. Après, l'engouement, on ne le sent pas. Après, il y aura peut-être 4000 personnes.
Les matchs sont sur Bein en plus, donc voilà. C'est une télévision payante.
Voilà, 4000 supporters de
l'Ostade. Hop, je vous coupe.
Ah, mais si.
But à Doha, et c'est une énorme surprise, Valentin Germain.
Effectivement, énorme surprise. L'Argentine renversée par l'Arabie Saoudite en 5 minutes. Ça fait 2-1 pour les Saoudiens. Le but sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface de Salem Aldaoussari, seulement dévié par Martinez, le gardien de l'Argentine. Et c'est peut-être la première grosse surprise de ce mondial. Ça rentre dans votre thème, puisqu'un des favoris, l'Argentine est menée face à l'Arabie Saoudite après 54 minutes de jeu.
RMC, Estelle Midi.
Tout peut arriver.
Bon, écoutez, il reste quand même une bonne demi-heure pour l'Argentine. Faut quand même savoir. Alors, on est toujours avec Valentin Germain. Il y a deux buts qui ont été refusés pour l'Argentine en première période, but de Messi et but de Lautaro Martinez. Et Lautaro Martinez, en vrai, c'est un scandale. Ça a été refusé pour 1 cm de coude.
Alors, on peut rappeler qu'effectivement, c'est souvent très très juste. Il y a une espèce d'intelligence artificielle maintenant qui permet de détecter les hors-jeux. Et effectivement, on a souvent des images où on voit, comme lors du premier match par exemple, où un joueur équatorien s'était vu refuser un but à cause d'un demi-pied qui était hors jeu. Là, effectivement, Lautaro Martinez était hors jeu d'un coude. Donc, c'est vraiment au millimètre près. Et effectivement, les Argentins ont même vu 3 buts refusés pour position de hors jeu. Ils le payent très cher puisqu'ils sont maintenant menés 2-1.
C'est hallucinant et ce serait la grosse surprise de ce début de mondial. Franchement, celle-là, on ne l'attendait pas.
Il y a beaucoup de gens qui vont perdre. Mais ça peut peut-être vouloir dire que l'Argentine va gagner le mondial parce qu'on a souvent vu des exemples d'équipes qui commencent très très bien. Moi, ça me fait toujours peur les équipes qui commencent très très bien leur mondiaux parce qu'en général, c'est le contraire. Les chances de l'équipe de France, bon, on se souvient tous de ce qui s'était passé en 2002, éliminé au premier tour. Mais l'Espagne, championne du monde 2010, éliminé au premier tour en 2014.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, on a l'Allemagne. Championne du monde en 2014, éliminée en 2018.
Tout à fait.
C'est très très difficile de faire deux fois de suite. C'est pas une malédiction. Non, mais c'est parce que en fait, c'est pas une question de malédiction. Enfin, ça, j'y crois pas. Enfin, ça, c'est tout simplement parce que c'est très difficile de maintenir un groupe et de maintenir une tension de la victoire. Aussi longtemps, c'est-à-dire que ça dure 4 ans. Il y a 4 ans entre deux coupes du monde.
Mais là, le groupe est tellement renouvelé que c'est presque
mais par défaut, il est renouvelé à cause des blessures.
T'es l'équipe de France quand même, et en plus, il va te manquer quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Mais la plupart du temps, en fait, c'est mentalement, c'est toujours plus simple d'être outsider.
Mais bien sûr.
Que d'être favori.
Oui, mais tous les jeunes mecs,
c'est plus facile d'aller gagner que de défendre. En fait,
tous les jeunes gars, ils ont le couteau entre les dents.
Oui, mais c'est peut-être trop des fois parce que
ils ont pas l'expérience.
Trop parce que Tchouaméni, par exemple, on le voit au Real Madrid, il est titulaire aujourd'hui dans le plus grand club du monde. Il est très bien. Après, il faut le voir dans un. Mais il est à côté de lui. Il a Toni Kroos. Oui. Il a Modric. Il a des joueurs extraordinaires parmi les meilleurs du monde. En équipe de France, on sent que ce qui pêche cette année, c'est le milieu de terrain à cause des absences de Pogba et Kanté. Donc c'est plutôt là.
Et Pogba, c'est le boss du vestiaire.
Ah ben oui. C'est.
Et Kanté, le boss du terrain. Bon, on a ce bon vieux Rabiot.
Kanté, en tant que boss du vestiaire, on peut pas dire. C'est pas le mec qui va taper du poing sur la table.
Non, je sais bien.
Mais après, c'était certainement le meilleur milieu du monde. En tout cas, sur la Coupe du Monde 2018.
Bien sûr, bien sûr.
C'était le meilleur milieu du monde. Et là, tu les remplaces. Alors, c'est fort, hein. Rabiot, Tchouaméni, c'est très bien. Mais c'est quand même pas pareil. Et puis, il te manque l'expérience des grandes compétitions.
Et le niveau,
il est plus fort que ce que tu joues, effectivement, que ce soit en Liga ou en France chaque week-end, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais enfin, là, en tout cas, voilà, grosse surprise pour l'instant dans ce mondial.
Vous
avec
rendez ça passionnant,
Saoudite.
Si je puis me permettre.
C'est gentil. Qui mène contre l'Argentine. Thierry, je sais que vous n'êtes pas très foot, mais vous allez regarder le match ce soir?
Oui. Parce que à un certain niveau, ça devient de l'information, et donc oui, je vais regarder le match. D'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à côté, et puis je vais voir le premier match de l'équipe de France. Je suivrai pas, sans doute pas les autres. Je regarde pas les matchs en journée. Je vais pas regarder l'Argentine tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau, parce que encore une fois, je suis pas un fouteux. Mais oui, je vais regarder pour voir comment ça fonctionne. Alors peut-être que je regarde, mais je vais regarder. Oui, c'est sûr.
On est avec Julien qui nous a appelé au 32-16. Julien qui est parisien. Bonjour Julien.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Julien, vous y croyez à cette équipe de France ?
Alors oui, alors en préambule, déjà, c'est un vrai plaisir de passer avec vous, Estelle, qui est à la radio, parce que la Joconde est au Louvre, je pense.
Ah oui, quand même. Oui, oh là là. J'espère ne pas recevoir de soupe à la tomate.
Ce serait dommage. Alors oui, moi, non seulement j'y crois, mais en plus, je ne pense pas. Alors, je ne dis pas qu'on va être meilleur sans Benzema, mais je pense pas du tout que le fait que Benzema soit blessé soit un problème. Alors, Fred Hermel va me sauter dessus comme sur un mojito certainement, mais je pense que il a rien prouvé en équipe de France. Autant au Real, il est indéniablement un magnifique joueur. Son ballon d'or le prouve.
Enfin, en même temps, on l'a privé d'équipe de France pendant 5 ans, donc.
Oui, mais même avant ça, il a passé X matchs sans marquer, sans être performant. Mbappé, lui, pour le coup, l'a fait en bien moins de temps.
C'est pas la même période. C'est-à-dire que Benzema, par exemple, il est à la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2014, il termine meilleur buteur. Donc, même si on est éliminé par l'Allemagne, donc qui gagne après la compétition, mais je veux dire, voilà, il est resté 5 ans sans jouer en équipe de France, et c'est 5 ans qui ont été sa meilleure période certainement.
Ah oui, non, mais très certainement. En fait, sur la qualité du joueur, il n'y a pas débat. Moi, c'est sur la logique de groupe, toujours pareil.
D'accord.
La logique de groupe. Et je pense que quand tout va bien, c'est super, ils se sautent dans les bras, etc. Quand ça va mal, deux gros égos comme Mbappé et Benzema auraient pu poser problème dans un vestiaire.
Je ne suis pas d'accord.
Non, c'est vrai que c'est Lyon, Mbappé, les ballons d'or.
Oui, non, mais sincèrement, parce que vous me connaissez, vous voyez tout ce que j'ai suivi et tout ce que je suis cette équipe du Real Madrid. Benzema, tous les entraîneurs vous diront qu'il facilite le jeu.
Mais c'est pas ce que te dit Julien. Julien, il te parle de pression médiatique et du fait que, par exemple, il prend la lumière, alors qu'aujourd'hui, Mbappé, il a envie de prendre la lumière en numéro 1. Il apprendra plus avec Giroud qu'avec Benzema qui vient d'être ballon d'or.
Bien sûr.
Pareil pour Griezmann.
Oui,
Griezmann,
mais après,
on a presque oublié qu'il joue en équipe de France.
Oui, mais dans le jeu, après, c'est la question extra. Enfin, à l'extérieur,
Giroud, en vrai,
à l'extérieur de la pelouse. Mais Benzema, c'est un facilitateur de jeu. C'est-à-dire qu'il permet justement, quand un Mbappé qui est de plus en plus perso, avoir un Benzema qui crée du lien avec les autres joueurs, qui intègre Mbappé dans le jeu collectif, je pense que ça va manquer plus que les buts de Benzema.
En tout cas, force est de constater, si tu regardes les derniers résultats, il y a eu l'Euro 2020, on perd contre la Suisse en 8e, et il me semble sur le terrain il y avait Benzema et il y avait Mbappé, et en 2018 t'avais pas Benzema, mais tu gagnes quand même la Coupe du Monde. Donc
mais
ça
Benzema
doit être
est pas à ce niveau. Le niveau d'aujourd'hui de Benzema, il est ça tombe son top, quoi. Mais bon.
Mais Giroud est peut-être encore meilleur qu'en 2018.
Je suis persuadé que Giroud peut être la très bonne surprise, parce que on a pensé jusqu'à la dernière minute qu'il pouvait ne pas être sélectionné par Didier Deschamps. Et dans l'histoire du football, il y a plein de cas comme ça. Le dernier arrivé, celui sur lequel on comptait pas, celui qui était souvent moqué et qui devient la star. Ça, c'est fort possible.
Pascal Chimbanda, on se souvient tous.
Oui. Enfin, il a pas beaucoup joué.
Je sais. Oui, sauf que Giroud,
ça a été la star des Guignols pendant la Coupe du Monde 2006. Merci Julien d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était un plaisir. Julien qui va regarder le match ce soir entre la France et l'Australie. Est-ce que ce sera le cas de Thierry qui nous appelle de Rosny-sous-Bois? Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai un préambule aussi. Ma femme est jalouse de vous parce que je vous ai vu dans les chaînes précédentes et puis Estelle Denis. Donc elle est jalouse parce que je vous adore. Voilà.
Non, mais c'est gentil, ça, Thierry.
Ça, c'est un message personnel.
Oh, rassurez-la.
Vous savez, ça fait 32 ans que je suis marié, donc elle est rassurée.
Très bien.
Donc je disais que, effectivement, je disais à votre sordardiste que, la France peut gagner la Coupe du Monde, comme d'autres équipes d'ailleurs. Rappelez-vous, je pense que...
Comme toutes les autres d'ailleurs.
Oui, dans 2018, il y a eu un Maroc-Espagne où l'Espagne a eu du mal. Je ne sais même pas s'ils n'avaient pas perdu à l'époque. L'Espagne avait eu du mal à gagner contre le Maroc.
Oui, avec un arbitrage terrible.
Oui.
C'est impossible, oui. Et donc, c'est pas parce que M. Benzema, hélas, s'est blessé, que l'équipe de France n'a pas aussi performance, voire plus, parce que Monsieur Giroud, c'est le meilleur buteur de l'équipe, un des meilleurs buteurs de l'équipe de France, je crois qu'il est deuxième, je crois.
Il risque de battre le record de Thierry Henry, là.
Voilà, de Thierry Henry, et je pense que Monsieur Giroud va éclater et va pouvoir nous emmener en finale de la Coupe du Monde, contre l'Argentine ou le Brésil.
Bah écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, évidemment. Ce serait bien pour l'équipe de France. Bon, le chemin est encore long. Fred, je vous sens pas.
Non, mais sur Giroud, je suis d'accord parce qu'il apporte une alternative différente. C'est-à-dire que même un match pourri, un centre, une tête de Giroud, voilà. C'est-à-dire que Giroud, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de débloquer un match sur pas grand-chose, que c'est un vrai numéro 9, quoi. Et ça j'aime bien. Après.
Ce serait une histoire de malade.
Ah,
oui.
Ah, mais ce serait
extraordinaire. Ah, ouais,
bien sûr.
Le destin de ce joueur.
Ah, oui.
Critiqué, sifflé, moqué.
Ah oui, non, mais de même par certains partenaires, qui n'étaient pas très, très élégants de leur part. Après, quand on regarde le groupe de l'équipe de France, on n'est pas dans les cinq premiers au niveau de la qualité du groupe. C'est-à-dire que si on prend ça d'un point de vue très froid, l'Allemagne a une meilleure équipe, l'Argentine a une meilleure équipe, le Brésil a une meilleure équipe.
L'Arabie Saoudite.
Oui, bah, la surprise.
Non, mais on perd deux fois contre le Danemark le Danemark dans notre groupe.
Oui,
alors après, quand on regarde toutes les Coupes du Monde, les vainqueurs, c'est toujours des histoires qui se créent avec des blessures, avec des changements de stratégie. Si on reprend à nouveau 98, on a quand même Dugarry et Guivarch. Je pense qu'à l'époque, il faut se replonger dans le truc. On fait peur à pas grand monde à l'époque, au début de la Coupe du Monde.
Mais c'est le début,
derrière, on joue pas grand monde. On joue l'Italie en vert, mais avant ça.
Il marque un but contre l'Afrique du Sud, Dugarry, premier match. Il se blesse dans la foulée. Je crois qu'il se fait une déchirure disque jusqu'au janvier. Il reste quand même, il réussit à être à nouveau titulaire. Je veux dire par là qu'il y a des histoires et que c'est très compliqué au final d'imaginer ce que va être cette histoire, mais c'est vrai que Giroud, ça semble écrit quand même.
Tout le monde a envie.
Tout le monde a envie.
C'est vrai.
Oui, pour terminer, il y a seulement un truc qui, moi, me dit que ça va être difficile, c'est que quand on est au début d'une aventure, là, tu peux tout espérer. Là, ça fait 12 ans que Didier Deschamps est là.
Ouais.
On a quand même le sentiment que le message, etc., est un petit peu usé, quoi.
Sans parler de Noël de Grette.
Oui, mais qui, à mon avis, il n'est pas sur le terrain.
Non, mais habituellement, un président de Fédé peut quand même aller passer des messages aux joueurs avant. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il soit très audible.
Là, je crois qu'il ne va pas passer la porte.
C'est ce que je voulais dire.
À mon avis. Vous avez plein de messages, Rémi.
De très nombreux messages, notamment de Laurent, qui nous dit sur Direct Studio. Bonjour à tout le monde. Moi, l'équipe de France de football me fait rêver avec des jeunes joueurs que l'on a découvrir. Ça me rappelle 1998 avec Henri, Trezeguet. Je pense que l'équipe de France peut aller loin. Un fidèle auditeur.
On vous a fait un petit sondage, hein, bien sûr, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Les Bleus champions du monde, est-ce que vous y croyez? Ça donne quoi, Rémi?
Alors, c'est comme Argentine, Arabie Saoudite, c'est surprenant.
C'est
non. Non, parce que c'est non. C'est le non qui l'emporte et très massivement.
Bah, c'est compréhensible.
À 75% de ceux qui sont français sur nos réseaux sociaux.
Bah, oui, parce que les gens, qui sont fans de foot, ils voient bien tous les blessés et tous les absents qu'on a et que ce n'est pas gagné.
On l'espère, mais rationnellement, c'est compliqué.
C'est pas gagné. Voilà. Dans un instant, on parle de cette décision de la Cour d'appel de Paris qui interdit à Jean-Luc Ley de se produire en concert. Jean-Luc Ley qui est mis en examen pour viol sur mineur. Est-ce que c'est une très bonne nouvelle? À tout de suite dans Estelle Midi, on vous attend au 32-16.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec toujours Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel. Et on va tout de suite, c'est la Coupe du Monde, bien sûr. On vit en direct le match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Et cette grosse sensation, l'Arabie Saoudite qui mène toujours 2-1, Valentin Jamin.
Oui, 70 minutes de jeu, il en reste donc 20 dans cette partie. Et la grosse surprise, c'est que l'Arabie Saoudite a renversé l'Argentine. Les Argentins avaient ouvert le score par Messi. 2 buts en 5 minutes pour les Saoudiens permettent donc aux hommes du coach français, hein, Hervé Renard, qui gère cette équipe d'Arabie Saoudite, eh bien, d'être devant. Il reste 20 minutes à jouer. L'Argentine domine mais ne parvient pas pour l'instant à égaliser.
Le match Argentine-Arabie Saoudite est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi à la décision du jour. C'est celle que vient de rendre la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris qui interdit à Jean-Luc Ley de se produire en concert. Le chanteur est actuellement mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur, Rémi.
Oui, il a 69 ans. Tu l'as dit, il a été mis en examen il y a tout juste un an pour viol, agression sexuelle, corruption et abus de faiblesse sur mineur de plus de 15 ans. Deux jeunes femmes l'accusent de ces faits qui remonteraient aux années 2013 et 2014. À l'époque, qu'elles avaient 15 et 17 ans. La fille de Jean-Luc Ley est également mise en examen dans ce dossier, soupçonnée d'avoir fait pression sur les victimes présumées, tout comme la mère de l'une d'entre elles qui aurait été au courant des faits mais ne les aurait pas dénoncées. Et ce n'est pas une première pour Jean-Luc Ley. Il faut savoir qu'il a déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs en 2015, condamné également en 2007. C'est pour cette raison, au moment de sa mise en examen, il y a tout juste donc un an, que Jean-Luc Lahaye était immédiatement incarcéré. Il avait été remis en liberté au mois de mai, sous contrôle judiciaire modifié en octobre dernier par la juge d'instruction, alors que le chanteur venait d'annoncer son retour sur scène pour fêter ses 70 ans qui tombent le 23 décembre prochain. Eh bien, à ce moment-là, la juge le lui interdit et pour cause, à la même époque, l'une de ses accusatrices avait affirmé sur RMC que les agressions qu'elle a dit avoir subies s'étaient passées en grande partie dans les loges et dans les coulisses de ses concerts. Jean-Luc Lahaye avait fait appel de cette décision et donc, appel rejeté, il ne pourra pas chanter et remonter sur scène.
Thierry Moreau, Jean-Luc Lahaye interdit de concert alors qu'il est, parce qu'il est mis en examen. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une bonne décision pour vous ?
C'est très logique en tout cas, parce qu'on n'est pas du tout dans l'affaire Bertrand Cantat dont on pourra parler, où c'était le fait qu'il y avait polémique sur le fait qu'il remonte sur scène une fois qu'il était condamné, alors que c'était son métier.
Mais qu'il avait purgé sa peine.
Il avait purgé sa peine. Là, on est dans une phase qui est très compliquée, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui a fait une enquête, qui a écouté toutes les parties et qui a décidé de le mettre en examen. Ça veut dire qu'il y a des indices concordants dont on pense qu'il a commis ces deux viols sur deux mineurs de moins de 15 ans. Je rappelle quand même comment en effet il avait 61 et 62 ans respectivement sur des filles de 15 ans. Juste comme ça au passage. Donc il est mis en examen et en attendant le procès, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs possibilités. Quand on a de l'argent comme Jean-Luc Lahaye, on a un grand avocat de renom, parce que un citoyen lambda dans la même situation, il serait en préventive, c'est-à-dire qu'il serait incarcéré. Là, Jean-Luc Lahaye, il a un bon avocat qui fait qu'il a un contrôle judiciaire qui est assez sévère, mais qui, il y avait une petite brèche, puisque c'était pas précisé s'il pouvait remonter sur scène. Donc évidemment, la juge a corrigé ça. Ça me semble tout à fait logique, au regard évidemment des circonstances dans lesquelles les présumés viols ont été commis. Il est tout à fait logique. On sait comment se passent les concerts.
Oui, il est mis en examen. Je vais pas le défendre, mais il est mis en examen.
Oui, mais justement, enfin, alors, excusez-moi, le concert.
Il
sait comment
métier.
Ça se passe.
D'accord, il ferait un autre loges. Métier. Il serait routier, par exemple. Il aurait plus le droit d'exercer son métier?
Alors, si le fait d'exercer son métier favorise la concomitance des faits, on peut l'empêcher de faire son métier.
Si ça lui permet de rencontrer des gamines de 14 ans sur des aires d'autoroute, oui, on pourrait dire, il faut
faire. Enfin, il peut aussi les rencontrer sur les réseaux sociaux.
Oui, mais c'est les témoignages, notamment c'est sur RMC, où effectivement, une des deux plaignantes dit que c'est son terrain de chasse, les concerts. En clair, après les concerts, il les emmène dans les loges et c'est après où il les viole. Et donc, c'est exactement ce qu'elle dit. Donc, la juge l'entend. Et en disant, c'est trop risqué de le remettre sur scène.
On sait bien comment se passent les concerts. Enfin,
tous les chanteurs ne violent pas.
Non, je
ne
parle pas de viol. Je dis, on sait bien comment se passent les concerts où certaines stars, de chanteurs, trouvent des groupies devant leur loge, etc.
Oui, c'est facile, quoi.
Voilà, c'est facile. Ouais. Disons que ça facilite. Donc, si ça facilite la concomitance de faits qui sont délictueux, là, en l'occurrence, il y a quand même une grosse présomption, le juge a pris cette décision qui me semble très juste,
logique.
Non, mais ce qui est quand même fou, Fred Armel, c'est que des gens payent encore leur place pour aller à des concerts de Jean-Luc Lahaye. Moi, je me suis dit, possible, mais même que quelqu'un organise ses concerts, c'est-à-dire qu'il trouve un tourneur pour lui organiser un concert. Mais ça me paraît aberrant, en fait.
Mais s'il y a un tourneur, s'il y a des concerts, c'est parce qu'il y a des gens qui réservent et qui sont. Voilà, ça, c'est une. Et là, je suis d'accord avec toi, on peut s'interroger là-dessus.
Oui, surtout.
Après, moi, je comprends. Et c'est pourquoi il faut que cette décision de justice soit très bien expliquée. Et c'est aussi notre rôle. Ce n'est pas une censure à un artiste. Parce que ça, ce serait terrible.
Non.
Voilà. C'est pas parce qu'il a commis ces faits supposés qu'il n'a pas le droit de chanter, même des choses gays, etc. Ça, c'est autre chose. Après, moi, je rejoins Thierry. Un moniteur de colonie de vacances mis en examen pour viol sur des enfants, on va pas lui permettre d'être de nouveau moniteur.
Non, mais ça n'a rien à voir. Moniteur de colonie de vacances, c'est en contact.
Terrain de chasse.
Non, mais là, excuse-moi, il fait pas chanter. Il va pas prendre des jeunes filles dans le public pour les inviter à chanter avec lui.
Il l'a fait.
C'est ce qui s'est passé.
Il l'a fait,
mais enfin là, il est mis en examen. Donc.
On peut discuter de la.
Il va être surveillé,
On peut quand même reconnaître que là, il y a une décision de droit logique.
Oui, mais oui.
C'est-à-dire que moi, je comprends que la Cour d'appel dise, d'un point de vue du droit.
Mais alors, faut la prendre pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que quand t'es mis en examen pour viol, tu ne peux plus exercer ton métier.
Alors, je suis pas d'accord. L'individualisation de la justice en France fait que on adapte justement. Donc là, le contrôle judiciaire, il est adapté pile poil au cas de Jean-Luc Lahaye. C'est-à-dire que comme il commet ses faits dans les loges des concerts, on lui évite d'aller dans les loges des concerts faire des concerts.
D'accord. Alors, Harry Habitant, qui est mis en examen, par exemple, il n'aurait plus le droit de tourner?
C'est pas la même chose puisque ça ne s'est pas passé sur un tournage. Et ça,
ce qui compte, c'est le lieu.
C'est les circonstances de la façon dont les faits ont été commis.
On est d'accord qu'un routier, si par exemple il viole une jeune fille chez lui, bon, il peut continuer à conduire son camion, mais s'il a violé la jeune fille dans son camion, il peut plus conduire.
Mais voilà. Si c'est un serial violeur,
Estelle,
l'exemple du routier est pas terrible parce que en revanche celui d'un prof ou effectivement d'une colo confrontée à des enfants. S'il y a une suspicion, là effectivement c'est complètement justifié.
Parce que tu travailles avec des enfants, mais le boulot de Jean-Luc Lahaye, c'est pas de travailler avec des enfants.
La juge pour Jean-Luc Lahaye, elle s'appuie sur un rapport qui a été remis cet été, qui prouve que Jean-Luc Lahaye fait office d'emprise sur ces jeunes, notamment mineurs, mais pas que, fans. Et qu'il a ce pouvoir d'emprise sur elles, etc.
C'est déjà qu'il est mineur de Jean-Luc Lahaye, ça m'étonne.
Déjà les parents, j'imagine que les parents.
Enfin oui, tu vas pas envoyer
ton enfant au concert de 13 ans.
Ce qu'on peut aussi dire, parce que Fred disait les faits supposés pour ces deux affaires-là, mais comme tout à l'heure, on a été rappelé, il a déjà été condamné deux fois. On peut peut-être rappeler les faits pour lesquels il a été rappelé.
Non, mais c'est horrible.
La première fois, 2007, relation sexuelle avec une mineure de moins de 15 ans. Mm. La loi a évolué depuis, c'est-à-dire que depuis 2021, si vous avez une relation en tant que majeur avec quelqu'un de moins de 15 ans, c'est automatiquement classé comme viol. Mm. Donc si ça s'était passé aujourd'hui, il aurait été automatiquement condamné pour viol. Déjà, ça vaut le coup de le rappeler, même si effectivement, d'un point de vue de la loi, il n'a pas été condamné pour viol. La deuxième, corruption de mineur en 2015, qu'est-ce que ça veut dire? Il demandait à une jeune fille de moins de 15 ans de, en gros, faire des vidéos à poil devant sa webcam. Voilà de qui on parle. Donc effectivement,
et on ne parle pas que de ça.
Et on parle pas que de ça parce qu'il y a en plus les deux affaires du supposé viol. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que par les temps qui courent, vous imaginez si le gars il allait faire son concert là où il y a trois jours on demande un grand MeToo de la parole de l'enfant sur l'inceste où on le sait les chiffres, il y a trois enfants par classe inceste et violence sexuelle, trois enfants par classe qui sont victimes de ce quand même qui est un fléau majeur. Et là, l'autre il irait faire son concert. Déjà que personne autour de lui n'a eu la présence d'esprit de lui dire, son avocat, son super avocat, effectivement, il a les moyens de lui dire.
Fais-toi discret quoi.
Mais bien sûr.
Mais voilà, si ça se trouve, il lui a dit, parce qu'il y a un autre truc qu'il faut dire avec Jean-Luc Lahaye, c'est que lui, globalement, il s'en fout de ce qu'on pense de lui. J'ai regardé un peu c'est ce qu'il a dit de lui.
Ouais,
moi, les jeunes filles, c'est un jardin fleuri. Je me vois mal dormir avec une femme de 60 ans, c'est mon choix. Ouais, effectivement, mais entre 60 ans et 14 ans,
il y a de moi que ça dit la même chose, il n'a pas été condamné.
Il avait même dit, je cite, le truc qui est horrible, je vais quand même pas me taper Julie Pietri.
Voilà.
Et après, il avait dit ça. Non, mais c'est qu'il est.
Mais il avait dit ça, moi je l'ai vu devant Enora Malagré lui dire, tu es trop vieille pour moi, alors que.
Un jour en 2020, il présente sa nouvelle compagne, qui, lui, il a 67 ans, elle est très jeune, mais elle est majeure, mais elle est jeune.
30 ans de moins.
Et elle a 30 ans de moins.
Et ça, c'est pas puni par la loi.
Et il dit, oui, mais il dit, je l'ai choisi à l'échographie. Vous imaginez le mec alors qu'il a été condamné deux fois pour atteinte sexuelle, violence sexuelle. Voilà le bonhomme. C'est pas quelqu'un qui dit bon, j'ai déconné dans le passé. Je dis pas que ce serait mieux, mais au moins maintenant voilà, j'ai compris, etc. Ça se fait pas du tout. Il fait des vannes là-dessus.
Et on l'empêche pas d'aller en studio pour enregistrer un album. C'est-à-dire que s'il dit je veux continuer à faire mon métier de chanteur et donc je veux enregistrer un album, je pense que la juge ne l'empêchera pas. Là le problème c'est que le fait de se rapprocher du public, d'avoir le système des concerts avec les loges, les VIP, les carrés, les gens qui passent derrière, essayer de rencontrer. Il y a un danger, il y a un risque. C'est un principe de précaution et moi je salue le travail du juge sur cette question. On est dans un temps suspendu entre là il est mis en examen, on attend le procès. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met en prison? Le juge a décidé que non, mais au moins on a un œil très vigilant sur lui.
Mais est-ce qu'il faut faire une différence, Fred Hermel, entre les métiers publics et les métiers non publics?
Non. Non, parce que ce serait une question morale dans ce cas-là. Non, c'est simplement si l'exercice de ce métier pourrait faire un trait favorable à ces actes-là.
Non, mais après, j'imagine aussi qu'il y a la souffrance des victimes. C'est-à-dire que vous avez été, vous avez été violée par un chanteur. Vous le voyez se produire en public avec plein de femmes, fans qui crient Jean-Luc. J'imagine que.
Oui, mais le droit ne comprend pas ça.
C'est ça. La justice, elle est justement là. Elle est émotionnelle.
Bah oui, peut-être.
La morale est de bon sens. Mais le droit ne.
Oui, mais la justice, elle doit prendre en compte la peine des victimes.
Bien sûr, oui.
Donc, à mon avis, elle a aussi statué là-dessus.
Alors, c'est ce qui s'est passé avec. Tout à l'heure, tu l'évoquais. Les affaires n'ont rien à voir. Mais, ceci étant dit, il y a eu condamnation de justice, je parle de Bertrand Cantat. Mmh. Il y a eu un certain nombre d'associations féministes qui, alors qu'il a été condamné, qu'il a purgé sa peine, lorsqu'il est remonté sur scène, ont protesté au nom du symbole que ça représentait
des violences faites aux femmes. Du symbole et moral.
Et qui ont invoqué
et pour la famille de Marie Francine.
Mais ce qui s'entendait aussi,
Faut pas se tromper sur le rôle de la justice. La justice, elle est là pour regarder un fait commis par rapport au droit. Elle est pas là pour, je dirais, ou compenser la peine de la victime. Elle doit tenir compte de la peine de la victime. Et justement, la justice, elle doit prendre du recul par rapport à ça pour éviter toute émotion, toute vengeance, tous les sentiments qui sont très humains, mais qui sont pas en droit des éléments importants.
En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Jean-Luc Lahaye interdit de se produire sur scène. Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Bah, c'est assez logique, cette décision de justice. En tout cas, on l'a dit. Et la réponse, elle est aussi. C'est oui, c'est une bonne nouvelle pour 84% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Dans un instant, Anthony Morel dans Estelle Midi. On va parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde la plus Big Brother de l'histoire, avec de la reconnaissance faciale et de l'espionnage des supporters. Anthony Morel nous racontera tout ça dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, on va parler de cette Coupe du Monde de foot et non pas de la grosse surprise, hein, l'Argentine qui est en train de se faire battre par l'Arabie Saoudite. Non, on va parler d'un autre aspect dont on parle moins lors de cette Coupe du Monde, c'est la surveillance numérique quasi obsessionnelle dont font l'objet les supporters sur place. Il y a notamment l'espionnage systématique des smartphones.
Ah oui, mais c'est vraiment la Coupe du Monde Big Brother, on pourrait la surnommer comme ça, à tel point que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté en France, hein, recommande fortement aux supporters qui vont là-bas, eh bien, de ne pas partir avec leur smartphone personnel, de partir en fait avec un téléphone vierge, soit un vieux modèle qu'on a dans un placard.
Prépayé comme les délinquants.
Oui, exactement, comme génial. Les trafiquants de drogue ou les maris ou les épouses infidèles. Voilà,
il
paraît, je sais pas, moi j'en sais rien. Bon. Et donc en gros, on part avec ce téléphone. Pourquoi partir avec un téléphone vierge? Eh ben parce qu'une fois sur place, on vous demande d'installer deux applications. Alors anodine en apparence, c'est l'application officielle qui permet de stocker les billets pour aller dans les stades, etc. Et puis un pass sanitaire obligatoire. Sauf que quand on les décortique, eh bien on se rend compte que ce sont de redoutables spyware, c'est-à-dire des logiciels espions, voilà, qui vont donner en fait accès à tout le contenu de votre smartphone, c'est-à-dire qu'on peut vous géolocaliser en temps réel. On peut lire vos SMS, on peut regarder vos photos qui éventuellement peuvent mettre un supporter en délicatesse par rapport aux autorités qataries en fonction de ce qu'on a sur son téléphone. En fonction de voilà, si on a un truc
interdit. De sexualité par exemple.
Mais concrètement,
t'es
homosexuel, t'as des photos avec ton compagnon ou ta compagne.
Ah ben,
par exemple, je crois que c'est interdit d'avoir des applications de rencontre sur son téléphone. Ça c'est compliqué. Ouais, enfin en tout cas Grindr, c'est pas forcément conseillé. Les applications de paris sportifs aussi, il vaut mieux les supprimer parce que c'est pareil, ils ont accès à tout. Et même
il faut enlever Vivino également.
Vivino, très bonne application pour ceux qui connaissent pas, c'est le Shazam du vin, et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Non, et alors faut noter que c'est pas que le Qatar qui fait ça, hein. On avait eu un précédent avec les Jeux Olympiques de Pékin où c'était exactement la même
que les grandes démocraties.
Il y a quand même un point commun entre les deux.
C'est ça en fait, c'est des sociétés de surveillance numérique. Enfin, c'est un laboratoire incroyable de la surveillance numérique et ils voulaient même aller plus loin que ça. Alors ça s'est pas fait, ils négociaient avec une entreprise basée en Suisse pour acheter ce qu'on appelle des IMSI catchers. Les IMSI catchers, en fait, c'est des fausses antennes relais qu'on cache dans une mallette. On met ça n'importe où et ça va capter toutes les communications dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. C'est utilisé par les services secrets notamment. Ils ont essayé d'acheter ça en Suisse, mais visiblement la transaction n'a pas eu lieu d'après la presse suisse.
Et alors apparemment les supporters vont aussi devoir faire gaffe à ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux.
Ah bah faut faire très attention. La CNIL recommande aussi de verrouiller hein, idéalement les réseaux sociaux le temps de la compétition. Donc déjà vous arrivez, vous n'avez pas le droit de boire d'alcool, vous n'avez pas le droit de publier sur les réseaux sociaux. Enfin non, c'est
vous
la
pas le compétition.
Et t'as pas ton portable.
Vraiment la fête. Hein, c'est long. Sympa du début à la fin. Alors en tout cas de cacher tout ce qui a trait à son orientation politique et surtout sexuelle parce que évidemment ça peut poser problème. Et alors c'est très intéressant. Je regardais les recommandations de la DGSI, donc les services de renseignement intérieur. Pour les voyages à l'étranger, notamment les voyages d'affaires, parce qu'il y en a qui partent aussi en mode business. Alors, je vous les donne, mais on se croirait dans le bureau des légendes, c'est-à-dire changer tous ses mots de passe, installer un VPN sur son ordinateur, refuser toute clé USB qu'on vous donnerait, par exemple si on donne des clés USB à l'entrée du stade à tous les supporters, surtout les refuser, parce que là encore il y a des spyware qui peuvent être installés, mais aussi mettre une petite coche sur votre téléphone ou votre ordinateur pour être sûr qu'il n'y ait pas une substitution, qu'on vous prenne le vôtre et qu'on en mette un autre à la place pour essayer de vous voler des secrets industriels. Et on vous dit aussi, surtout ne faites pas confiance aux coffres-forts dans les hôtels pour mettre vos appareils numériques par exemple, parce qu'on peut les fouiller. Et méfiez-vous aussi des rencontres d'un soir, genre une superbe femme qui vient vous draguer alors qu'on vous drague jamais en France. Mais c'est probablement qu'il y a un truc un peu... mais c'est réellement ça. Ça peut sembler être une série d'espionnage, mais en réalité ces problématiques de cyberespionnage, elles sont réelles. Et c'est pas juste le Qatar évidemment, là on parle vraiment de ceux qui partent en voyage business à l'étranger d'une manière générale.
Et comme ça ne suffisait pas, il y a aussi la reconnaissance faciale. Hein.
Alors oui, c'est ça. Quand je vous parlais d'un laboratoire de surveillance générale, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un œil numérique en permanence, des drones qui survolent les stades, 15 000 caméras à reconnaissance biométrique, donc capables d'analyser le visage et de reconnaître le visage, et notamment des personnes recherchées par les services de police, qui sont des technologies qui sont utilisées un peu partout, maintenant testées, notamment aux abords des stades, pas seulement au Qatar. qui souvent font l'objet de quelques couacs. Moi, je me souviens, en 2018, la finale de la Champions League à Cardiff, où on avait testé cette technologie-là. Et donc, les caméras avaient filmé tous les supporters. Elles avaient détecté 2470 criminels. Je mets des gros guillemets à criminels, parce qu'en fait, il n'y avait que 173 personnes qui étaient réellement cherchées par les services de police. Donc, en gros, il y avait un taux d'échec de 92% pour ces technologies de reconnaissance faciale.
Ça ne marche pas encore.
Voilà, qui sont sophistiquées, mais qui ne sont pas encore tout à fait au point, en tout cas, pas à chaque fois.
Et Anthony, on sait si les joueurs et les staffs des différentes équipes nationales doivent aussi installer ces mouchards.
C'est une bonne question. Je pense que oui. Aux Jeux Olympiques de Pékin, par exemple, tous les athlètes étaient obligés d'installer ces applications. Donc, je ne vois pas pourquoi, là, ils en seraient exemptés. C'est probable.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle de la réforme de l'assurance chômage. À partir du 1er février, la durée d'indemnisation des nouveaux demandeurs d'emploi sera réduite de 25%. Est-ce que c'est scandaleux ou nécessaire? On vous attend au 32-16. Bien sûr, on se retrouve dans un instant, juste après cette courte pause.